bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Moodstep où nous allons parler de savoir-être au travail. Avant de commencer, j'aimerais envoyer un grand merci pour le message d'Orakan sur la chaîne iTunes de Moodstep. Bravo et merci, c'est le titre de son message. Excellent podcast, quel bonheur de découvrir chaque semaine une interview stimulante sur des sujets de qualité. C'est une réelle source d'inspiration avec des intervenants très bien choisis par Johanna. Félicitations, keep going. Merci. C'est extrêmement stimulant, c'est le mot, de recevoir ce genre de message. Merci à toi, Rakan. Je ne sais pas qui tu es, mais un grand merci. Nous allons retrouver aujourd'hui Véronique Turley. Nous allons parler de créativité. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur. Et nous la retrouvons tout de suite. Bonjour Véronique.
Bonjour Johanna.
Alors je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui. Nous allons parler de créativité et comment la stimuler et l'accueillir, cette créativité. Et comment réactiver notre curiosité. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, donc Véronique Turley, j'ai créé Octopod, qui s'écrit O-K-T-O-P-O-D, il y a 9 ans. Et il y a 3 ans, j'ai recentré les activités d'Octopod autour de 3 piliers qui me paraissaient 3 fondamentaux. Donc, j'ai aussi fait un travail personnel pour aller chercher ces 3 piliers. Et ces 3 piliers sont l'empowerment, donc tout ce qui est pouvoir d'agir, l'ingéniosité et l'altruisme raisonné. Dans mes activités, moi, ce que je préfère faire, je préfère proposer, c'est tout ce qui est atelier, formation, proposer aussi des conférences ou des keynotes pour stimuler les gens et stimuler leurs connaissances et aussi essayer de les inspirer. Le but du jeu, c'est avec Octopod d'accompagner les personnes et les organisations à aller vers plus d'agilité. C'est très recherché, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, donc c'est bien de le développer de manière à ce que les organisations soient plus fluides et plus organiques dans leur fonctionnement. Et pour ça, j'ai choisi effectivement la créativité, la curiosité et aussi les conditions qui permettent de les mettre en place. Parce que parfois, on met la créativité au centre et on essaie de développer la créativité, mais on ne met pas forcément les conditions, on ne crée pas les conditions pour qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle puisse se développer. Donc voilà, en cours, ce que je propose.
Et avant de créer Octopod, d'ailleurs, je réalise en t'écoutant qu'en fait, on se connaît depuis 9 ans, parce que j'ai l'impression d'avoir été témoin de la naissance d'Octopod, mais je peux me tromper.
Oui, je pense que tu as même été... on s'est rencontrés avant la naissance d'Octopod, parce que j'avais une activité indépendante avant de créer Octopod.
Et donc, avant de créer Octopod, comment t'es arrivée à créer Octopod ? C'est-à-dire, d'où tu viens, dans le sens... Je sais que quand on s'est rencontrés, tu travaillais beaucoup dans le milieu de la voile.
Oui, donc effectivement, alors, on s'est rencontrés... Moi, j'exerçais un autre métier que je commençais à exercer en indépendante, qui était plutôt autour de l'événementiel sportif et qui était plutôt sur la création de contenu sur des événements sportifs internationaux et la diffusion de ces contenus. Et donc, en fait, oui, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup été à l'international. Au bout d'un moment, j'arrivais pas à renouveler. J'ai besoin de renouveler beaucoup les activités que je fais. Et j'avais beaucoup de mal à la fois renouveler mes activités, à y mettre du sens et à trouver le vrai positionnement que je voulais avoir, notamment en amenant des idées nouvelles, en étant toujours en train de chercher des opportunités. Et du coup, je me suis formée à la créativité en tant que processus il y a 3-4 ans. Et je me suis aussi formée sur un autre sujet qui est le business model Canva. Et donc, j'ai complètement, j'ai changé le cœur de mon activité pour aller plutôt vers développer cette créativité, réactiver la curiosité qui pour moi est fondamentale, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles. Et donc, je me suis recentrée en fait sur ce que j'aimais faire et ce que je savais faire et en essayant de le transmettre.
D'accord. Et alors, tu as parlé de 3 piliers. Le premier, l'empowerment, j'ai interviewé en vidéo un monsieur passionnant sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous situer ce que c'est et qu'est-ce que tu entends par empowerment ?
Alors, pour moi, l'empowerment, je dis bien pour moi...
Comment on pourrait le traduire en français déjà ?
Pouvoir d'agir.
Pouvoir d'agir, oui.
Il y avait une conférence Changer d'air il n'y a pas très longtemps où on avait prononcé empuissancement qui n'était pas très joli. Enfin, c'était vraiment très pas beau du tout. Donc, pour moi, c'est le pouvoir d'agir. C'est-à-dire, c'est comment je donne à la personne des connaissances, des compétences et des outils pour qu'elle soit en capacité de prendre des décisions pour elle-même et potentiellement pour l'organisation. Tu peux travailler aussi l'empowerment d'une organisation. Donc moi, c'est ça pour moi, fondamentalement. Et pour moi, ce pouvoir d'agir, il vient de la capacité à être dans l'action, dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, enfin je travaille beaucoup aussi sur la procrastination, puisque c'est un sujet aussi qui va avec tout ce qui est gestion du temps, qui est une condition à la créativité. Et on est très peu, enfin souvent on n'est pas dans l'empowerment parce que on se pose pas la question de savoir si on peut prendre la main sur un sujet, si on a le droit d'intervenir, si on a le droit de poser. Et aussi on est de beaucoup dans, comme on est beaucoup dans l'urgence, on est très peu dans le présent. Et pour moi l'empowerment c'est la capacité à identifier quelque chose qui ne va pas dans le présent et sur lequel on a une perte de pouvoir ou de pouvoir d'agir. Et d'avoir les moyens de se poser des questions et de retrouver cette capacité à prendre des décisions pour soi ou pour le système, hein, ça peut être aussi pour la société, et à mettre les choses à passer à l'action sur un sujet donné.
Et juste pour avoir un échantillon, quel processus ou méthode tu utilises pour amener à ça?
J'utilise la créativité et la curiosité. Donc les techniques et les outils de créativité et de curiosité, et la curiosité, pardon. Sont des outils qui permettent, puisque le postulat de base en créativité, c'est que pour un problème donné, tu as potentiellement au moins trois solutions. Donc, à partir des outils et des techniques de créativité, tu transmets aux personnes la possibilité, la capacité d'aller chercher des solutions par eux-mêmes. Et pour moi, ça, c'est de l'empowerment.
Qu'est-ce que ce serait une technique de créativité?
Une technique de créativité. Alors, les techniques les plus basiques, ça peut être le brainstorming. Enfin, forcément. Une technique de créativité, ça peut être aussi tout ce qui est créativité avec les images. C'est-à-dire que tu utilises un outil transitionnel qui va permettre à la personne, à partir d'une image, de chercher les solutions qu'elle voit dans l'image par rapport au problème qu'elle a identifié, etc. Donc, tout ce qui est connexion forcée. Voilà, donc ça c'est les outils de base. Après, de manière très classique, il y a les six chapeaux de Bono qui permettent aussi de se mettre dans des postures différentes et dans des états d'esprit différents pour aborder le problème avec différents angles, pour se dire bah tiens si j'étais plutôt dans un esprit scientifique, comment est-ce que je verrais le sujet? Si j'étais plutôt dans un esprit ludique, comment est-ce que je verrais le sujet, etc.
Donc
Donc il y a
chacun porte un chapeau ou une casquette qui dit, voilà, je me mets dans la posture du scientifique. Comment je vois le sujet, c'est ça?
T'as plusieurs, après tu peux mélanger des techniques. Enfin, ouais, c'est un peu ce que je fais, c'est que tu peux
Bah,
avoir
t'es
soit
créative avec les méthodes de créativité, quoi.
exactement, ouais. C'est ça, tu fais travailler les mêmes personnes avec la même technique, soit tu mélanges un peu les techniques ou tu les hybrides un peu ou tu les twistes un peu, de manière à ce que tu soulèves un peu le groupe et les solutions et la pensée en ayant des gens qui réfléchissent de manière différente dans un même groupe, quoi.
Tu as parlé aussi donc dans tes trois piliers de l'altruisme raisonné. Qu'est-ce que c'est?
Alors l'altruisme raisonné, pour moi, alors il y a l'altruisme qui est de faire un don de soi, voilà, de ce qu'on est, de ce qu'on peut proposer complet à la société, à l'environnement, etc. Ce qui est potentiellement aussi dangereux pour soi. L'altruisme raisonné, pour moi, c'est de dire je donne suffisamment, je suis généreux et je ne pense pas qu'à moi quand je produis quelque chose ou quand je fais quelque chose, c'est-à-dire que je le diffuse et je le transmets. Cela dit, raisonner parce qu'on est quand même dans un monde économique et qu'à un moment donné, c'est intéressant aussi de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va manger demain. Et donc cet altruisme n'est pas, on va dire, c'est pas une rivière qui coule ad vitam aeternam. Je pense aux autres, mais je pense aussi à moi. Je sais qu'on parle aussi d'altruisme intéressé. aujourd'hui.
C'est bizarre l'association des deux mots.
Jacques Attali prononce quand il est dans son forum autour du forum de positive économie, il me semble, le nom exact, parle d'altruisme intéressé. Et moi, c'est pas, enfin, ça me gêne un petit peu aussi. Je trouve qu'il y a un twist. Donc plutôt un altruisme, mais raisonné, parce que ben, on n'est pas aujourd'hui dans un contexte qui permet d'être totalement altruiste, quoi.
Le sujet, c'est comment stimuler et accueillir la créativité. Alors, il y a ce mot accueillir qui me chatouille. Je trouve ça étonnant de le trouver là. Il y a des freins à notre créativité. Est-ce que toi, parce que tu rencontres beaucoup de gens dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu vois comme frein interne à notre créativité?
Alors, dans accueillir, il y a accueillir, alors effectivement, accueillir sa propre créativité, mais aussi que l'autre accueille ta créativité quand tu es dans une posture de créativité, quand tu es en train de créer.
D'accord.
Et ce qu'on trouve, en fait, soit on peut très bien limiter sa créativité parce que souvent, la croyance qu'on a, c'est qu'on n'est pas créatif. Il y a plein de manières différentes d'être créatif. C'est-à-dire que la créativité, c'est un process et la génération d'idées, le fait d'avoir des idées, c'est pas nécessairement c'est pas le centre, enfin, c'est une partie de la créativité. Mais il y a trois autres étapes, une avant et deux autres après, qui font que la génération d'idées n'est jamais qu'un morceau d'un ensemble et d'un tout, qui est le process de créativité. On
On
a
pourrait
beaucoup.
le voir ensemble, ce process. C'est quoi ce process?
Le process, c'est la première phase du process. Donc, alors, juste. Pour mettre en
Ouais.
contexte, une des définitions simples de la créativité, c'est que c'est de trouver des solutions inédites et adaptées à un problème donné. Trouver des solutions inédites et adaptées à un problème donné. Donc déjà, on n'est pas dans la créativité artistique. D'accord? C'est un autre type de créativité qui est adaptée à l'entreprise, à la vie quotidienne et qui peut être mis en place par tout le monde. Donc, on parle de trouver des solutions à un problème donné. Donc, la première phase en créativité, la première phase du process, c'est d'identifier le problème clairement et de manière très, de circonscrire le problème, de trouver le problème, si on y arrive, le problème racine, qui n'est pas nécessairement le premier problème qu'on voit. Donc, l'exemple que je donne par rapport à ça, par rapport à trouver ce problème, c'est que tu peux poser une question ou parler d'un problème en disant qui descend la poubelle? Qui va descendre la poubelle
Ah,
aujourd'hui?
c'est excellent parce que je vis dans une maison où il y a plusieurs appartements
Ouais.
et c'est toujours les mêmes qui descendent les poubelles, quoi
Ça
qu'ils
va,
sortent les
ça
poubelles.
va? Tu vois, tu peux poser la question de dire bah, qui va sortir la poubelle?
Ouais.
Après, tu peux te poser la question qui est de dire comment est-ce que mon déchet va faire pour aller de mon appartement à la poubelle? Ça, c'est une deuxième étape. Et ta troisième étape, c'est comment faire pour ne plus avoir de déchets. Donc, on voit bien que suivant comment on formule et on définit le problème initial, on ne va pas du tout aller chercher les mêmes solutions.
Mais comment tu vas questionner la question, c'est-à-dire comment tu trouves la bonne question?
Mais ça, c'est pareil, il y a plusieurs techniques en créativité et là, c'est là où la curiosité intervient aussi, c'est-à-dire d'être curieux par rapport à son problème. Ne pas dire, ah, c'est un problème et c'est un gros morceau, c'est un gros paquet, j'y arriverai jamais, ou j'arriverai dans mon entreprise ou mon organisation jamais à résoudre un problème ou à sortir du statu quo par rapport à cette situation-là. C'est qu'on questionne le problème, on va être curieux, on va poser plein de questions. Et surtout, il y a aussi des techniques, enfin, plusieurs types de techniques qui permettent de jouer avec le problème, de le formuler différemment. De regarder pareil le problème depuis un autre angle, de se poser la question de savoir, mais est-ce que ce problème est bien le bon problème? Et quels sont les différents, qu'est-ce qui articule le problème en fait? Quels sont les différents morceaux que j'ai dans ce problème qui font que ce problème n'est plus un gros paquet, mais une somme de morceaux qui sont activables? Donc parfois, quand on s'intéresse au problème, on se rend compte qu'il n'y a finalement pas grand-chose à faire pour qu'il n'y ait plus de problème.
Ça, ce dont tu parles, ça se fait en individuel ou en collectif?
Ça peut se faire en collectif aussi, puisque les parties prenantes font souvent aussi partie intégrante du problème, en fait. Donc, tu peux très bien avoir un groupe de personnes avec lesquelles tu commences à étudier le problème et à regarder le problème d'un peu plus près, à voir quelles sont ses composantes. Et parfois, le simple fait de ce que je disais, de jouer. Enfin, problème, c'est toujours des problèmes, c'est même des petits morceaux de problème, c'est toujours des curseurs sur lesquels tu peux travailler. Et parfois, on n'a pas nécessairement besoin d'aller dans la phase de génération d'idées. Donc, un problème peut se résoudre,
Ouais, c'est marrant.
ouais, dès le fait d'observer le problème. Donc ça, c'est la première étape. Donc la deuxième étape, c'est toute cette partie génération d'idées quand tu veux aller chercher du quantitatif ou des idées un peu folles que tu n'aurais pas nécessairement juste en regardant ton problème. Donc tu passes à la phase de génération d'idées. Et cette phase de génération d'idées, elle est super intéressante parce qu'elle amène... Elle amène des conditions, c'est-à-dire que pour être dans, et c'est là où on parle d'accueillir la créativité, on peut commencer à en parler, c'est que, pour pouvoir réaliser cette phase de génération d'idées, pardon, je bégaye un petit peu, mais pour cette phase de génération d'idées de manière optimale, il faut jouer sur la suspension du jugement.
Oui.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas juger les idées qui arrivent, ce n'est pas grave si elles sont folles, justement, on y va. Il faut jouer aussi sur la bienveillance. Donc on ne juge pas une idée, on ne rigole pas sur une idée, on les accueille, même si la personne a du mal à donner une idée ou qu'elle n'est pas très bien formulée, c'est pas grave, on accueille l'idée parce qu'on on a potentiellement, on peut la retravailler après. Donc déjà, il y a bienveillance et suspension du jugement. Et ensuite, on peut avoir des idées folles parce qu'on va mettre des critères et des filtres pour filtrer ces idées, pour trouver les idées qui, finalement, on va filtrer pour trouver les idées qui ont le plus de potentiel. Donc, il faut faire attention aux critères pour ne pas tuer les meilleures idées dans l'œuf.
Mais
aussi.
Ça, ce serait dans une phase 3, de poser les critères ou les filtres, ou ils sont posés en amont?
C'est entre 2 et 3. Alors, tu peux les poser en amont, mais ça peut être intéressant aussi de les poser entre 2 et 3, parce que tu vois aussi par rapport à tes idées, peut-être que tes critères vont changer. Il y a une notion de flexibilité aussi. On n'est pas dans des processus qui sont figés, en fait. On se permet aussi à un moment donné de pouvoir changer d'idée par rapport à quelque chose. Et les critères, voilà, c'est entre 2 et 3. 3 étant la phase où tu récupères des idées qui ont le plus de potentiel et tu peux les retravailler. Donc, tu peux re-avoir une phase de génération d'idées sur la phase de 3, qui est la phase de développement des idées que tu as sélectionnées. Et les critères, il faut faire attention, ils sont quand même assez vitaux, ces critères, parce qu'ils peuvent potentiellement tuer des innovations s'ils sont trop fermés, si la prise de risque n'est pas suffisamment élevée. Et surtout, ce qui s'est passé ces derniers 50 ans ou plus, c'est qu'on a choisi des critères d'innovation potentielle sans nécessairement regarder les externalités négatives que pouvaient avoir ces nouvelles solutions.
Tu peux donner un exemple concret?
Par exemple, on pourrait dire d'une certaine manière que si on prend la voiture comme exemple, il y a eu, alors je crois que c'est dans les années 40, il me semble, déjà, on avait déjà des voitures électriques. D'accord?
Oui.
Donc on avait des innovations, on avait des voitures électriques, mais on a préféré aller vers des voitures qui fonctionnent au gasoil ou au pétrole. Mais ces voitures-là, sachant qu'à un moment donné, on savait qu'on avait des ressources finies, on est en train d'abîmer la planète. Et il y a aussi, voilà, enfin, bon, après, il y a plein d'enjeux, mais on ne va pas rentrer dans le trop global. Mais c'est de dire qu'à un moment donné, tu peux très bien innover et que cette innovation soit et des externalités négatives. L'innovation, ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif et qui fait que tu régénères un peu la société et la planète, quoi. Ça peut être avilissant, l'innovation. Donc, c'est de se poser la question aujourd'hui des critères qui peuvent être des critères qui tiennent, qui tiennent compte, en fait, des externalités que tu peux avoir aussi par rapport à tes innovations et par rapport à tes solutions créatives. Donc ça, c'est intéressant. Et après, la quatrième phase, donc ta troisième phase qui est de, après avoir sélectionné tes idées, de les retravailler, de leur donner du potentiel. Et la quatrième phase, c'est de mettre en œuvre. Et dans chaque phase... Dans chaque phase, que ce soit la clarification, l'identification du problème, l'idéation, le développement des solutions ou la réalisation, tu as la possibilité d'être créatif. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas tous... quand on met en place une idée, on peut trouver des solutions créatives pour la mise en place de cette solution. Donc, ce n'est pas uniquement la génération d'idées qui est créative, c'est l'ensemble du processus. Et quand je dis accueillir, c'est que on a chacun aussi, alors accueillir sa créativité et que la personne en face aussi accueille la créativité des autres, c'est qu'on a chacun des préférences par rapport à ces étapes de processus. On peut avoir une préférence sur trouver les problèmes ou trouver des opportunités. On peut avoir une préférence dans l'idéation, dans la génération d'idées, comme dans le développement d'une idée, c'est-à-dire prendre une idée et puis une solution, et puis trouver quatre autres choses qu'on peut faire avec cette solution ou lui trouver plus de potentiel qu'on imaginait au départ. Et on peut être créatif dans la réalisation et dans la mise en place. Donc ça, il y a des tests pour ça. Il faut vraiment comprendre qu'on a des préférences, qu'on peut avoir une préférence dans une ou plusieurs étapes, ou dans les quatre, pour certaines personnes, et que bah, tout le monde ne va pas être performant, compétent, ou avoir de l'énergie, ou prendre de l'énergie dans toutes les étapes. Donc ça, c'est aussi très important par rapport à la gestion d'équipe et la création des équipes créatives, la mise en place des équipes créatives qui vont réfléchir sur les problèmes. Tout le monde ne va pas être bon partout, et il faut accueillir ça aussi. On commence à travailler sur la diversité à cet endroit-là, en fait.
Donc en fait, ça me fait sourire, en tout cas ça m'a fait sourire, parce que je me rends compte qu'on a des croyances limitantes sur ce qu'est la créativité et là où elle se loge. Et ça me rappelle un petit épisode personnel à Noël, en famille, avec un cousin où je lui avais dit qu'il avait une grande créativité, il avait beaucoup ri parce qu'il est plutôt type ingénieur, et qu'en fin de compte, on se coupe peut-être de cette créativité. Donc j'en reviendrai à ma question. Merci d'ailleurs beaucoup pour ce process parce que c'est extrêmement clair. Sur les freins, qu'est-ce qui... Et je pense, et donc je fais une dédicace à mon cousin. Quels sont les freins que tu constates qui font qu'on se coupe de cette créativité, qu'on ne l'accueille pas?
Alors, je pense qu'il y a des freins à différents niveaux. D'une part, déjà, le premier frein, c'est que souvent, enfin, le nombre de personnes que je rencontre et qui pensent que la créativité, c'est uniquement une créativité artistique, genre
Oui, c'est
Monet,
ça, oui.
Picasso, etc. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on est dans un environnement, voilà, où on ne connaît pas ses missions, on ne connaît pas la vision de l'entreprise, tu peux être très bien avoir une créativité débordante et qu'elle ne soit pas accueillie parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle ne rentre pas dans les cadres. Cette
Bon, lui, il
créativité.
a un très très haut poste dans une grosse boîte, donc il a toutes les ficelles, et pourtant il croit qu'il n'est pas créatif.
Bah ça, après, c'est. Voilà, encore une fois, ça repart de la définition de la créativité qu'on pense uniquement artistique et uniquement d'avoir des idées, voilà, typiquement du créateur, du directeur artistique qui a des idées dans tous les sens, parce que ça n'a pas été valorisé. Donc, ça, c'est des freins qui arrivent de par l'éducation, qui arrivent de par la société elle-même aussi, de tout le système éducatif. Ensuite, c'est aussi de croire que, enfin voilà, si on change de chemin un jour pour aller au travail, si on prend un autre chemin, c'est de la créativité. J'ai trouvé une autre solution à mon problème qui était j'ai besoin d'aller du point A au point B, en fait. Donc, faut aussi concevoir que ce sont des toutes petites choses, la créativité. Ça peut être, voilà, en cuisine, on peut être créatif. Il y a eu un dossier il n'y a pas longtemps sur la créativité dans Socialter. Et j'ai trouvé un peu dommage qu'en fait, ils donnent des exemples de personnes créatives. C'était uniquement des grands chefs. Il y avait un grand chef. Alors, je ne vais pas retrouver les noms comme ça, mais il y avait, voilà, il y avait un doctorant ou en mathématiques, etc. Donc, on avait l'impression que pour être créatif, il fallait avoir un niveau, mais voilà, on n'était pas loin du génie, en fait. Et c'est pas du tout la créativité, elle est au quotidien. On le voit beaucoup avec les entrepreneurs sociaux aujourd'hui qui résolvent des problèmes qui sont des problèmes du quotidien, que ce soit au niveau du gaspillage alimentaire, au niveau de l'éducation, au niveau de l'accueil des réfugiés, etc. C'est du concret. Et c'est vraiment là que ça se passe. La créativité, enfin moi je l'associe beaucoup avec la curiosité. C'est à un moment donné de dire que on va nourrir sa créativité en s'intéressant à des sujets qui n'ont pas d'utilité fondamentale aujourd'hui pour soi, mais qui à un moment donné vont pouvoir servir. La créativité, c'est aussi et le fait de l'accueillir, c'est de se dire, moi un jour j'ai fait de la cuisine avec une personne, j'ai cuisiné, et la personne venait voilà, monter le feu sous une casserole alors que moi je voulais le baisser, et moi j'allais aussi toucher dans ses plats à elle, et c'était compliqué, il y avait une tension qui se créait. Et à un moment donné, enfin, voyant cette tension qui, voilà, c'est le problème initial, il est devant le fourneau, c'est de dire, ok. Occupe-toi de tes plats, moi je m'occupe des miens, parce que là on est en train d'amplifier le problème. Et en trouvant chacun son rôle devant chacune notre plat, bah, tout est devenu fluide. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de regarder la situation, de voir que la situation est en train de se tendre, et de chercher une solution qui peut être toute simple, qui va faire qu'à un moment donné, tout redevient fluide. Et pour moi, c'est un peu ça la créativité. C'est j'ai un problème, j'ai une espèce de nœud, moi j'appelle ça des paquets ou des nœuds ou des pelotes. Cette pelote, elle peut très bien grossir si je reste dans la même posture et dans la même situation avec les mêmes réflexes. la créativité, puisque je sais que j'ai, pour chaque problème, j'ai 3 solutions, au moins. Ça veut dire que je n'ai pas été en chercher beaucoup, hein. C'est vraiment la base. Enfin, que soit je les ai moi, soit une autre personne peut les avoir. Ben, je commence à les chercher. Et c'est ça pour moi. C'est plus une posture, en fait, la créativité qu'un process. Il y a un process créatif. Mais ce qu'amène ce process créatif, moi, ce que je cherche vraiment à développer, c'est une posture par rapport à un problème. J'ai un problème, ben, super, j'ai un problème. J'ai un conflit. Super, j'ai un
génial
conflit. Génial. Mais c'est vraiment ça. Voilà, je peux parler de manière assez personnelle, mais je le vois aussi. Enfin, je le vois aussi chez les gens. Enfin, quand je propose des ateliers, quand j'anime des ateliers, c'est, je sais qu'il y a des gens qui me disent, elles sont ressorties inspirées ou ils sont ressortis inspirés de l'atelier en se disant, mais si j'ai un problème, j'ai au moins 3 solutions, d'accord. Et j'ai aussi des personnes qui me disent, mais en fait, j'ai été curieuse par rapport à un problème. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de problème. Moi, je trouve ça génial. C'est de se dire, OK, on a l'impression, on est en train de commencer à faire le hamster en se disant, oh là là, tous ces problèmes, etc. Mais quand finalement, tu t'intéresses au problème, tu le décortiques et tu crées tes petites variables pour pouvoir jouer dessus, bah, tu te rends compte qu'il n'y en a pas, en fait. Et la créativité, pour moi, ça commence quasi là. C'est vraiment, je me mets dans cette posture de m'intéresser au problème pour savoir si vraiment il y a un problème. Et puis, s'il y en a un, j'ai beaucoup de solutions pour le résoudre, quoi.
Ah, alors, ah, c'est, non mais vraiment, merci beaucoup. On arrive au bout du temps imparti, mais pour, juste avant de conclure sur cette partie de l'interview qui nous permet de traiter du sujet avant le questionnaire, j'aimerais juste revenir sur le business model Canva que tu as évoqué.
Oui.
Parce que c'est voilà, c'est un outil que je trouve assez nouveau. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que c'est ?
Alors en fait, c'est très simple et en même temps, ça permet d'aller dans une complexité, enfin voilà, de traiter plein de sujets différents. Moi, je m'en sers de différentes manières du business model Canva. Je m'en sers aussi bien pour des transformations de business que pour des transformations de carrière. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça te permet, c'est un outil visuel. Donc, il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont visuels et qui vont beaucoup mieux travailler si on leur met un papier au mur avec des post-it et qui peuvent voir. Ça leur permet de réfléchir plus facilement. Le business model Canva, ça permet avec 9 cases qui sont alors clients, ressources clés, partenaires clés, circuits de distribution, etc. Enfin, il y en a 9, de modéliser la création de valeur qu'on peut avoir en tant que professionnel, en tant que personne ou en tant qu'organisation. Et ça permet ensuite, ce qui est très intéressant, de jouer avec les post-it, puisqu'on remplit le canevas qui est au mur, qui est posé au mur, moi je l'ai fait avec des canevas géants, qui permet de jouer avec les post-it pour j'enlève ce post-it, qu'est-ce que ça fait, j'enlève ce post-it, qu'est-ce que ça fait. Et donc de réimaginer des solutions. Donc c'est un outil de créativité en soi. Je l'aime beaucoup aussi, moi ce que j'aime beaucoup travailler dans ce canevas, c'est la case ressources clés. Que souvent on néglige, enfin à mon avis dans les organisations et en tant que personne aussi, c'est quelles sont mes ressources clés et qu'est-ce que je peux faire avec ces ressources clés. C'est là que l'ingéniosité peut intervenir. Je fais à partir de ce que j'ai et on est à ce moment-là dans ce qu'on appelle l'effectuation, c'est-à-dire que je pars de ce que j'ai et à partir de ce que j'ai, je crée quelque chose de nouveau. Plutôt que d'aller chercher tout le temps des conditions extérieures ou des budgets qu'on n'aura jamais pour effectuer les changements qu'on a envie de faire. Donc, encore une fois, c'est de rester dans le présent. C'est, j'identifie où j'ai ma création de valeur. Et là, il y a un travail super intéressant à faire. Enfin, je sais que tu travailles aussi avec des personnes sur ces thèmes-là, mais c'est de dire, OK, quelle est vraiment ma valeur, quelles sont mes ressources. Il y a un travail d'introspection, mais encore une fois, que ce soit au niveau d'une organisation, au niveau d'une personne à faire, qui sont super intéressants, et après de dire qu'est-ce que je peux créer comme valeur à partir de ça, quoi.
Merci, c'est bien, parce que comme ça, j'espère que on aura la curiosité, puisque le sujet est la curiosité d'aller creuser, voir ce que c'est, ou peut-être de te contacter pour faire un atelier avec toi là-dessus, à niveau personnel ou professionnel. Je te propose de passer au questionnaire. Merci. Qui est commun donc à toutes les interviews. Et la première question est, est-ce que en fait tu as eu un échec personnel ou professionnel qui t'a beaucoup appris et fait avancer dans la vie ?
Alors oui, s'il y en avait qu'un. Alors, en fait, Enfin, voilà, on parle beaucoup aujourd'hui d'apprendre, d'utiliser l'échec aussi comme une forme d'apprentissage. Et ça, je pense que c'est bien, parce que sinon, si on fait tout bien, quelque part, peut-être qu'on rate des choses aussi. Alors, je vais parler de deux échecs, en fait. Le premier dont je vais parler, c'est que moi, je suis passée par un out en début 2013. Hein. Je pense que c'est un mélange de burn-out et de brown-out dont j'en parle aujourd'hui.
Comment
C'est
as-tu fait pour faire les deux en même temps?
mon ami. En fait, je surinvestissais des missions qui finalement m'ennuyaient. Enfin, je m'ennuyais dans mon travail et pourtant, je
Ah, c'est drôle.
surinvestissais mon travail. Donc voilà. Donc ça fait une explosion début 2013. Alors par contre, je l'ai accueilli. C'est-à-dire que je savais que j'étais dans une situation, il fallait que je fasse des changements. Je suis pas parvenue à les mettre en œuvre au moment où j'aurais dû le faire, alors que je les avais sous la main. Hein. Les choses étaient là. Donc j'ai accueilli le burn-out en me disant, voilà, il faut que tu opères des changements, ça va être le moment de le faire parce que de toute façon, tu ne peux plus continuer comme ça. Donc, c'est ce que j'essaie d'éviter, avec les organisations, avec les personnes, d'anticiper ce moment-là où on n'est vraiment pas bien. Donc ça, c'est un premier échec. Et il y a une deuxième chose que je considère comme un échec, c'est qu'il y a 10 ans, j'avais créé une association pour mettre en place, alors c'était dans la thématique de la voile, pour mettre en place ce qu'on appelle une bourse aux équipiers, c'est-à-dire de mettre en relation des propriétaires de bateaux avec des équipiers potentiels.
Ah, c'est comme Vogue avec moi.
Eh ben voilà,
Tu
ben Vogue
connais?
avec moi, c'est Vogue avec moi si tu veux. Moi j'étais avec mon modem 56K dans mon grenier il y a 10 ou 15 ans à imaginer cette solution, sauf que j'ai pas pris le virage numérique et que j'étais un peu trop toute seule et pas assez entourée. Voilà, j'avais pas suffisamment de connexion et de gens qui m'entouraient pour pouvoir passer ce cap-là. Donc ça, moi, j'appelle ça un échec. Je le trouve cuisant parce que franchement, et c'est un échec parce qu'à un moment donné, je suis re-rentrée dans une dynamique économique qui était de dire, il faut que je mange. Donc à cette époque-là, j'avais cette super idée, mais je mangeais pas très bien, je mangeais beaucoup de pâtes. Et je suis rentrée dans une dynamique économique qui a fait que j'ai lâché ce projet-là.
Mais du coup, qu'est-ce que tu as appris de cet échec?
J'ai appris qu'il ne faut pas lâcher. Enfin, des deux, hein. Enfin, alors, les deux échecs, si je les mets ensemble, j'ai appris que, un, il ne faut pas lâcher parce que quand tu as du sens dans ton activité, quand elle fait sens pour toi, et le but du jeu, c'était aussi avec la bourse aux équipiers d'apporter quelque chose à des personnes, qu'elles puissent se rencontrer aussi, qu'elles se connectent ensemble, il ne faut pas lâcher. Il faut arriver à trouver un moyen de soit le poser le projet pendant un moment et puis de le reprendre après ou de le garder un petit peu dans un coin parce que ça fait sens pour soi. Et que si on ne garde pas ce sens-là, à un moment donné, on arrive dans une espèce, aujourd'hui, avec l'urgence dans laquelle on nous met, dans laquelle la société nous met, on ne prend pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps de retrouver ce sens-là. Et de toute façon, quel que soit si c'est une organisation, une société ou une personne, et je vais écrire dessus, j'ai un post en gestation là-dessus, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver avec un mur et une deadline qu'on n'attendait pas, et qui fait que on va aller se prendre ce mur. Donc, retrouver du sens aujourd'hui et s'accrocher à ça, je crois que c'est essentiel. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, soit avec mon activité, soit dans des activités perso, quoi. Donc, gardons cette notion de sens pour nous et nos valeurs. Voilà.
Est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui t'a fait particulièrement avancer, soit personnellement, soit professionnellement?
Je pense que. Enfin, j'ai parlé d'ingéniosité, hein, mais la curiosité. La curiosité, voilà, ça se développe aussi. Hein. C'est comme la créativité, c'est un muscle. Et donc, de rester curieux, d'arriver à maintenir un niveau de curiosité, pour moi, c'est essentiel. La créativité m'a énormément aidée aussi, parce qu'après le burn-out, je m'étais formée sur le creative problem solving, la résolution de problèmes créatifs. Et donc, dans mon canapé, en n'étant pas bien, je savais que, et avec mon activité qui était aussi en train de subir mon état, je savais que j'avais des solutions. Après, elles ne viennent pas toutes seules. Parfois, on se plante de solutions, mais je savais qu'il y en avait.
Mais ça te met en action en fait,
Ça
quand
met en
t'es
action.
dans un burn-out ou bore-out ou...
Ouais, faut en être sorti un peu, je pense,
Ouais.
mais à ça, je vais en rajouter un autre, enfin deux autres, qui sont la persévérance. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas les bonnes solutions, il faut persévérer. Enfin, je veux dire, ici, tu ne peux pas parfois trouver les bonnes solutions tout de suite. Donc, de persévérer, en essayant de persévérer dans une bonne direction. Et aussi ce qu'on appelle le growth mindset. Je ne sais pas comment on le traduit en français.
Ouais, le
C'est le fait
être dans une posture d'apprentissage
permanent,
continu, quoi.
ouais, d'apprentissage continu. Et voilà, ça fait quatre outils, ça fait beaucoup, mais je pense qu'ils se rejoignent, c'est d'être curieux. Donc après, quand une fois que tu es curieux, tu alimentes ta créativité, donc tu sais que tu vas trouver des solutions, d'être persévérant surtout, enfin quand on voit les inventeurs, ils ont besoin d'être persévérants parce que sinon, tu t'arrêtes à la première solution que tu trouves et puis c'est pas la bonne. Et après, d'avoir cette connaissance, on sait que les enfants, et ce serait bien que les adultes aussi, quand on sait que comment qu'on est en apprentissage permanent et qu'on a cette capacité à apprendre en permanence, on a de meilleurs résultats. On sait sur des enfants, c'est-à-dire quand ils savent comment leur cerveau fonctionne, ils sont capables de persévérer, d'avoir de meilleurs résultats parce qu'ils savent qu'ils peuvent apprendre encore, encore et encore, quoi. Et ça, je trouve ça tellement beau, tellement joli d'être dans cette posture-là.
Ensuite, en fait, je fais une parenthèse parce que j'ai posté aujourd'hui, j'ai vu une vidéo ce matin sur l'enseignement. C'est pas l'enseignement d'ailleurs, c'est la posture du questionnement philosophique à la maternelle. Et ça m'a touchée au-delà de juste ce que j'ai vu. De voir les enfants, d'apprendre jeunes qu'à un endroit ils vont penser, réfléchir par eux-mêmes et les réponses et les questions qu'ils posent, ça m'a beaucoup touchée. Donc, voilà, je faisais le parallèle avec ce que tu disais.
Mais je veux bien rebondir là-dessus, c'est-à-dire que cette technique de questionnement philosophique, c'est la phase 1 du processus créatif. C'est-à-dire c'est la clarification du problème. Et c'est de la maïeutique. Et moi, j'ai fait un atelier il y a quelques mois là-dessus sur tu réponds par oui et par non et tu es obligé d'articuler ton discours et ta pensée. Et c'est essentiel. C'est vraiment essentiel d'avoir ce questionnement à la base de toutes nos activités.
Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager? Et non, pas la créativité, autre chose.
Non, mais je sais, c'est pour ça que j'ai un temps de pause, j'y avais réfléchi. Alors, la qualité primordiale, je pense que alors l'écoute me paraît indispensable. Je pense aussi que c'est d'embrasser la diversité. On envisage surtout la diversité comme des diversités de culture aujourd'hui, ça peut être des diversités de religion. Mais il y a une diversité de pensées et on n'a pas parlé des profils atypiques, enfin ce qu'on appelle atypique aujourd'hui, mais il y a une diversité de pensées et d'approches des situations qui est fondamentale pour moi quand on veut manager. C'est-à-dire qu'on peut manager, enfin un manager ne peut pas considérer qu'il a des clones en face de lui et je sais que c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. Mais il y a un management, notamment des profils atypiques, qui est tellement important aujourd'hui.
J'ai fait un podcast sur le sujet d'ailleurs.
Voilà, ouais. Et je pense que c'est ça, c'est embrasser la diversité et aller vers son risque. Parce que de toute façon, cette diversité amène de l'ambiguïté. La société aussi amène beaucoup d'ambiguïté aujourd'hui, et c'est d'avoir cette capacité à se maintenir dans cette ambiguïté, dans ce risque et dans cette diversité. Et c'est pas simple, c'est pas voilà.
Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu pourrais nous conseiller à la lecture?
Alors, il y en a un que je conseille qui est un livre sur la colère de Thich Nhat Hanh, donc c'est de la pleine conscience. Je trouve qu'il est très intéressant parce que je pense qu'on a beaucoup dans nos énervements, dans nos colères aussi et dans tous ces problèmes qu'il y a. C'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut poser ça et comment surtout on peut éviter de l'alimenter. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il fait comprendre que ce à quoi on s'intéresse et ce sur quoi on porte son attention alimente tout le reste de notre système. Donc je trouve ça très intéressant de lire ce livre, juste pour sa culture générale éventuellement, mais aussi parce qu'il apporte aussi une question de bienveillance, d'écoute, qui sont très utiles, je pense, aux managers. Et ensuite, je vais conseiller un livre
Attends,
qui est
et du coup, je n'ai pas compris quel était le titre de ce livre.
La colère, la
Ah, ça
colère.
s'appelle juste la colère, ok.
La colère, ouais, les Thich Nhat Hanh. Et il y a un autre livre que je peux conseiller qui est très intéressant parce qu'en fait, on obtient des informations auxquelles on ne s'attend pas du tout. C'est un livre sur la procrastination qui est de John Perry, qui a été traduit en français et qui est, voilà, qui parle des profils atypiques en fait. Donc, c'est
D'accord.
très intéressant d'aller regarder, d'aller fouiller ce livre.
Merci beaucoup. Et pour finir, y a-t-il une citation qui t'inspire?
C'est une citation de Marie Curie, en fait, qui dit que dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre.
Oui, ça va complètement avec ton activité. Ça rejoint et clôt magnifiquement cette interview, que je trouve que une interview très généreuse de tes connaissances. Je te remercie pour ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut rentrer en contact avec toi?
Donc, il y a un site internet qui est Octopod, donc je le réappelle octopod.biz, où il y a un blog aussi, donc où je parle de l'urgence, de la procrastination et de la créativité, de la posture créative. On peut me retrouver aussi sur Twitter, alors sur le Twitter d'Octopod, qui est donc arrobase Octopod et Wire, Wire, Octopod Wire. Et ensuite sur Facebook aussi, sur la page d'Octopod, où je poste en ce moment, je propose des marches méditatives toutes les semaines, bah justement pour voilà, aller vers cette créativité, cette gestion du temps, le fait de se ressourcer. Donc je commence à intégrer la pleine conscience aussi dans ce que je propose avec Octopod.
Des marches méditatives inspirées par Thaï, quoi, Thich Nhat Hanh, puisque tu es allée au village des pruniers?
Ah non, je ne suis pas allée au village des pruniers, mais
Parce
je
que c'est
suis
ce qu'il
allée.
fait, hein, fait des marches méditatives. J'ai rencontré Thich Nhat Hanh,
Ouais,
qui m'a tapoté sur la tête.
bénédiction, mais ouais, mais t'as l'air beau.
J'ai eu beaucoup de chance qu'on était très peu,
Ouais.
et c'est ce que je préfère. Moi, j'ai du mal à méditer, je peux un peu, mais
Voilà.
ce que je préfère, c'est vraiment marcher et me plonger dans
La
l'émerveillement de
présence.
l'observation, en fait.
Exactement. Et oui, c'est inspiré de ça, mais en fait, il y a une maison de l'inspire à Noisy-le-Grand, à côté de
Oui,
Paris,
bah oui,
une
bien sûr.
Et en fait, c'est là que je suis allée et c'était un très joli moment. J'y ai passé 4 jours et c'était un peu une révélation. Donc, c'est vraiment. Alors, je ne suis pas une grande. Voilà, je ne pratique pas énormément, mais je connais. Voilà, je connais l'essence des choses et je pense que je vais développer ça. Ouais. Mais la marche méditative que je propose est effectivement et au but de Chaumont. Donc, on profite en plus bien de la nature et effectivement bah, issue de, voilà, de ces 4 jours à la maison de l'Inspire.
Merci beaucoup Véronique pour
Merci à
ce
toi,
moment
Lina.
partagé et je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir.
Merci, bah toi aussi, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Sais vraiment pas comment conclure cet épisode sans vous dire que je prends un réel plaisir à discuter, à fouiller, à chercher. Bon, beaucoup des gens que j'interviewe sont des gens de mon réseau et je pense que ce podcast maintenant... On va aller chercher de nouvelles rencontres. Et bien si à vous aussi, moi ça me plaît de le faire, mais si à vous ça me plaît de l'écouter, n'oubliez pas d'aller sur iTunes et de me laisser un petit message. Ça me met en joie. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.